Alors, les techniques de détente, de relaxation, les techniques hindouistes, nous ont depuis la nuit des temps interpellés et demandé de nous intéresser à ce ventre à travers des techniques respiratoires. De tout temps, ils nous ont appris, on a su que le ventre, notamment pour les orientaux, était le centre de la paix, le centre de la sérénité. Si vous voyez l'image de Bouddha avec ce ventre proéminent, serein, eh bien pour nous, ce serait plutôt le sac à refoulement, hein. Donc on tient, on retient, tout est bloqué au niveau de cette sphère émotionnelle. Nos peurs, nos colères, nos angoisses. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la rétention. Non seulement dans la rétention sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan émotionnel. Ce qui fait que l'on se constitue une cuirasse avec une couche, deux couches, trois couches, voire même plus, qui coûte cher en énergie psychique, cette cuirasse. Donc, peut-être que simplement la notion de se centrer sur son ventre pour se poser la bonne question « où je respire ?» La plupart du temps, notre respiration, lorsque nous sommes dans le stress, elle est haute, elle est thoracique. C'est une manière de retenir, c'est une manière bien respirer justement. Sous l'effet du stress d'ailleurs, la respiration devient rapide, elle devient haute. On a l'impression de devoir prendre son souffle ici. On va peut-être faire juste un petit exercice. Vous allez mettre une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Vous allez fermer les yeux quelques instants pour mieux vous centrer simplement sur cette respiration. Essayez de sentir où vous respirez et comment vous respirez. Est-ce que c'est votre main qui est située sur votre thorax qui bouge, ou est-ce que c'est la main qui est située au niveau de votre abdomen? Essayez même d'écouter votre respiration. Si vous avez du mal à fermer les yeux, fixez simplement un point très précis. Et prenez conscience simplement de cette toute petite technique respiratoire qui va vous permettre simplement de vous poser, de vous calmer, et de prendre conscience que dans une journée, simplement de temps en temps, cette petite écoute-là va vous permettre simplement d'entendre, entendre votre souffle. Bien respirer permet précisément de réguler toutes les fonctions de l'organisme. Elle permet aussi de libérer un émotionnel bloqué. Vous savez, quelquefois, vous avez des enfants qui sont là, on voit, les enfants respirent naturellement avec le ventre. Dès que commencent les premières frustrations, la première séparation avec les parents, on retient pour éviter de pleurer. Eh bien, la respiration permet aussi de libérer un émotionnel, de libérer, d'avoir accès justement à ces émotions. Lorsque on retient l'expression d'une pensée, d'un sentiment, d'un affect, on contient son souffle. Cette respiration en profondeur, elle va nous permettre justement de trouver la maîtrise et le calme nécessaire pour identifier nos émotions. Elle dissipe les tensions physiques, mais elle donne surtout beaucoup plus de liberté à l'expression d'une émotion. Et c'est en ce sens-là, dans ce contexte, que je voudrais citer la sophrologie, qui est une méthode de relaxation, de détente, mais aussi d'écoute de soi, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, sur le plan de l'émotionnel. Par cette qualité d'écoute de soi, par la pratique de techniques respiratoires, on a accès justement, et par la concentration, on a accès à cet émotionnel. Le patient va pouvoir vivre de plus en plus finement ce qui se passe dans son corps, dans son émotionnel, et à travers des techniques découvrantes, d'entrer dans cette analyse, dans cette auto-analyse, pour effectivement comprendre non seulement l'origine de ce blocage, mais aussi pouvoir réguler toutes les fonctions physiques. Donc, par le caractère découvrant, la sophrologie offre des outils découvrants et recouvrants. Découvre, c'est tout ce qui se passe en vous, hein, c'est l'inconscient, et recouvrant, c'est ce qu'on essaye à travers la régulation des tensions physiques et psychiques à détendre. La sophrologie propose donc des outils qui permettent d'évacuer le stress tout en comprenant ses racines corporelles et émotionnelles. Donc en nous aidant, en nous mettant ainsi à l'écoute de nous-mêmes et en comprenant ce que signifie ce stress, nous allons pouvoir progresser également dans l'écoute de l'autre. Sigmund Freud, dans le principe de plaisir et principe de réalité, nous a appris depuis la petite enfance à nous fermer aux impressions désagréables. Alors bien sûr ici, dans la notion de faire du stress un ami et de toutes les techniques anti-stress, on pourrait citer beaucoup de recettes plaisir, bien sûr. Ce n'est pas tellement ce que je voudrais, c'est surtout vous connecter à vous, c'est-à-dire à cette écoute de soi et au sens, c'est-à-dire apprendre par exemple à écouter, à se connecter à ses cinq sens. Se connecter à ses sens nous permet de découvrir d'autres sources de plaisir. Parce que lorsqu'on est dans l'écoute des sens, voir, entendre, toucher, etc., on est dans quelque chose d'authentique, dans un rapport avec soi, mais aussi avec la nature, avec les autres. Et puis, cela va nous permettre aussi de découvrir la recette plaisir dont nous avons besoin en fonction du besoin du moment, justement. Apprendre, par exemple, que à travers les cinq sens, on peut s'ouvrir encore à d'autres sens. L'imaginaire, la créativité, cela va nous permettre de découvrir ce qu'il y a en nous de ressources non exploitées et d'être vraiment en contact non seulement avec notre corps, avec nos émotions, avec la nature, avec la terre aussi, hein, bref, avec la vie dans tous ses sens. Notre esprit, en fait, est beaucoup trop sollicité à travers... Notre esprit émet à peu près 50 000 pensées, vous vous rendez compte, 50 000 pensées par jour. On a vraiment un besoin réel hein, de se recentrer sur soi et de ce retour à soi. Et puis, il faut accepter peut-être aussi le fait que c'est dans les activités les plus simples hein, que réside une part de notre épanouissement. Et ça, on a beaucoup de mal. Hein. C'est d'ailleurs ce que prônent les bouddhistes. Hein. C'est, nous, orientaux, on a beaucoup de... occidentaux, pardon. On a beaucoup de mal à réaliser cela. Hein. On a toujours besoin de faire, hein, d'être et de faire surtout. Apprenons par exemple aussi à faire un grand ménage dans nos activités, un grand ménage périodique aussi de nos responsabilités. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est superflu? On a comme ça des voleurs de temps. On pourrait se poser la question, quels sont mes voleurs de temps? C'est quoi les voleurs de temps? C'est quoi par exemple? C'est le téléphone? C'est le téléphone, c'est la télévision, c'est les files d'attente, c'est le voyage où on est obligé effectivement d'être soumis à des contraintes, des mécanismes d'adaptation. Le soir, en prenant l'avion, on les annonce 50 minutes de retard, bon, 50 minutes de retard avec toutes les correspondances aussi en retard. Donc, c'est évident que
merci. Donc, ce sont des voleurs de temps. Donc, il y a effectivement des voleurs de temps sur lesquels on peut agir, d'autres, on ne peut pas toujours agir. Hein. Mais c'est peut-être aussi nos capacités, nos facultés d'adaptation qui vont nous permettre, et de flexibilité, qui vont nous permettre de réagir face effectivement à 50 minutes de retard. Bon, peut-être que je vais utiliser ces 50 minutes pour me relaxer, lire, me détendre, etc. Donc, apprenons à faire ce ménage et aussi à connaître nos vrais désirs. Quels sont mes vrais désirs? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? En thérapie, souvent, lorsque les gens sont dans une impasse, je leur pose souvent quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où voulez-vous vivre? Avec qui et comment? C'est vrai que c'est très interpellant hein, comme question. Qu'est-ce que je veux faire? Ça interpelle, mais en même temps, ça fixe au niveau de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et ça permet effectivement d'aller dans la bonne direction. C'est pas toujours évident, hein, mais c'est vrai qu'avec le temps, on apprend à élaguer. On apprend à élaguer, on apprend aussi à faire le deuil d'un certain nombre de choses et à se fixer des priorités. Lorsqu'on est libéré de l'aveuglement du mental et des émotions conflictuelles, on peut goûter à cet état de plénitude durable qui va se manifester lorsque on est vraiment libéré de ces contraintes. C'est ainsi que l'on va pouvoir savourer la solide nourriture de la vie. Si on connaît ses propres limites, si les contraintes ne sont pas exacerbées, eh bien, elles peuvent constituer un stress positif. Pourquoi ? Parce qu'on va donner le meilleur de soi-même, on avance dans une direction identifiée par étapes, qu'on s'est définie, hein, clairement définie et positionnée, et donc on est satisfait de ses réalisations dans la notion de l'estime de soi, donc on peut se faire confiance. Dès lors que l'on a trouvé cette paix en soi, eh bien, il devient plus aisé de mener une vie professionnelle, une vie affective, épanouissante, et de réintégrer ce fameux principe de plaisir. Lorsque on n'a plus peur, hein, on est libéré de ses peurs, on acquiert une liberté intérieure et l'on fait confiance à la vie. En fait, c'est notre liberté intérieure, celle-là ne connaît d'autres limites que celles qu'on lui impose. Donc, il importe un petit peu de voir quelles sont les limites que l'on s'impose. Comme le dit Mathieu Ricard dans son très beau livre, Le Livre du Bonheur, la paix est un trésor de l'esprit qui ne s'acquiert pas sans effort. Il dit aussi, on ne naît pas sage, on le devient. Et je voudrais terminer cette conférence par la citation de Khalil Gibran dans Le Prophète, qui parle du corps comme une musique de l'âme, hein, et il dit le corps est la harpe de votre âme. Il ne tient qu'à vous d'en tirer une musique douce ou des sons confus. Voilà, vous avez le choix, on a toujours le choix. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez poser des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. On n'a plus le temps, j'étais trop longue pour une fois. Très bien, merci.
Madame.